Et tout de suite, on retrouve Alain Roux pour l'émission Dialogue entre Congolais.
La situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée en RDC depuis l'année passée, surtout dans la partie Est. La conclusion du dernier rapport de la haut-commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme en RDC. Ce rapport fait allusion notamment aux arrestations et détentions arbitraires illégales et aux violences sexuelles et à l'impunité. Elle analyse faire de cette conclusion du rapport de la haut-commissaire de l'ONU sur les droits de l'homme au Congo. Que faut-il pour améliorer les droits humains en RDC? Trois invités participent à cette émission. Jean-Luc Mars, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Monsieur Marx, bonsoir.
Et bonsoir, et bonsoir à vos auditeurs.
Professeur Nyabirungu Mwenesonga, professeur des droits à l'Université de Kinshasa, avocat près le Tribunal pénal international pour le Rwanda et près la Cour pénale internationale, il est député national PPRD. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Il est en ligne, c'est Maître Juvenal Mounouvo Moubi, point focal du réseau de la société civile pour la réforme du secteur de sécurité, basé au Nord Kivu. Maître Juvenal Mounouvo, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs du Dialogue entre Congolais.
Alors, auditeurs et auditrices, vos réactions nous sont déjà parvenues. Kairi Matembera de Saline au Katanga, je pense que ce rapport est un combat indirect au gouvernement et non une aide aux victimes. Claude de Guénéma à l'Équateur, pour instaurer réellement la paix à l'Est, il faut que notre justice soit soutenue en la dotant de moyens financiers et humains non corruptibles et que tout cas de violation soit réellement dénoncé et sévèrement puni. Bienvenue à tous dans votre émission.
Envoyez vos réactions en appelant au 0 80 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
La situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée en RDC depuis la 13e session de mars 2010, surtout dans la partie Est. C'est l'une des conclusions du tout dernier rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Congo. Rapport qui a été présenté mercredi dernier à la 16e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Dans ce rapport, les épilés insistent également sur certaines recommandations formulées l'année passée par la plus haute autorité des Nations Unies en matière de droits de l'homme et dont le gouvernement congolais n'a pas encore mis en œuvre. D'autres détails sur ce rapport avec vous, Kélin Kouti.
Tout en saluant les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors de la 13e session sur la situation des droits de l'homme en RDC, la haut-commissaire note que la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée depuis son dernier rapport datant de mars 2010 et qu'elle demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays, où le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC continue d'enregistrer des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire par les forces nationales de sécurité et les groupes armés. Il s'agit entre autres des arrestations et détentions arbitraires et illégales qui restent une pratique courante en RDC et les mesures qui seraient nécessaires de prendre pour les combattre efficacement ne sont pas prises. Selon ce rapport, les conditions de détention restent toujours déplorables en RDC ainsi que l'insécurité qui prévaut dans les lieux de détention. Le nombre de décès en détention est resté élevé avec environ 119 décès enregistrés entre le mois de janvier et juin 2010. Plusieurs cas d'atteinte à l'intégrité physique des détenus compris des viols, ont également été attestés pendant la période considérée. La même source indique que malgré les efforts déployés par les autorités pour lutter contre les violences sexuelles, celles-ci restent répandues. Il s'agit d'un phénomène qui sévit dans tout le pays et tous en particulier des milliers de femmes et d'enfants. Les récents viols massifs commis dans le territoire de Walikale illustrent ce fléau et sont la preuve que les viols continuent à être utilisés comme une arme de guerre en République démocratique du Congo.
Merci, Kélin Kouti. Réagissant à ce rapport, Lambert Mendy, porte-parole du gouvernement, souligne que tout en acceptant les besoins d'amélioration à apporter à la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du pays en général, et particulièrement dans l'est du pays, le gouvernement congolais invite ses différents partenaires à transcender les phases de diagnostic sur lesquelles tout le monde s'accorde pour s'impliquer dans le renforcement des capacités des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Lambert Mendy l'a dit dans sa conférence de presse jeudi dernier.
dernier à Kinshasa. On l'écoute au micro de Jupsi, Kando et Innocent en ligne.
Nous sommes d'accord sur le diagnostic qui a été établi, mais nous ne sommes pas d'accord sur les remèdes. Et même dans la partie diagnostique, lorsqu'ils indexent les FRDC et que nous savons que la criminalité dans les FRDC est marginale par rapport à toutes les composantes de cette armée nationale, et que même lorsqu'elle intervient, elle est contrée par nos instances de la justice militaire et qu'ils n'en parlent pas, nous trouvons cela assez injuste vis-à-vis des FRDC. Et nous ne souhaitons pas que l'on puisse mettre les FRDC sur le même pied d'égalité que des groupes criminels que nous appelons forces négatives et dont personne ne gère les comportements criminels. Au moins, les FRDC, elles sont punies lorsqu'elles se comportent mal. Mais voilà qu'on veut les mettre dans le même sac que les autres parce qu'il y a toujours cette volonté de vouloir noircir le tableau. Et ça, nous ne pourrons jamais être d'accord avec nos partenaires lorsqu'ils essaient de le faire.
Les rapports demandent à l'ONU de créer un mandat de procédure spécial en RDC. La proposition vous en charge-t-elle?
Non, nous pensons que la seule proposition acceptable pour nous, c'est que les Nations Unies s'impliquent dans l'accroissement des capacités des technostructures nationales.
Jean-Luc Marx, je rappelle que vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Sur quoi la Haut Commissaire s'est-elle basée pour dresser ce rapport?
Oui, si vous me permettez, tout d'abord, je voudrais quand même rappeler un peu la nature du rapport. Je pense que c'est important, pas pour les spécialistes qui sont là, puisque je suis ici avec un éminent spécialiste du droit pénal international, mais pour nos auditeurs. Parfois, il y a une confusion. Nous ne sommes pas Human Rights Watch, nous ne sommes pas Amnesty International. J'ai beaucoup de respect pour ces organisations qui sont absolument indispensables, comme leurs homologues congolaises. Mais nous, notre but n'est pas simplement de dénoncer, il est d'essayer d'assister le gouvernement, d'assister la société civile, d'assister plus largement la République démocratique du Congo pour améliorer les choses. Et je crois qu'on ne peut pas dénier le fait qu'il y a des efforts importants qui ont été faits. Et à cet égard, si vous me permettez, je voudrais, vous avez fait dans votre introduction, vous avez évoqué la réaction d'un de nos auditeurs qui disait « ce rapport est un combat contre le gouvernement ». Je m'inscris complètement en faux. Ce n'est pas un combat contre le gouvernement, puisque nous travaillons avec le gouvernement, nous assistons le gouvernement. Et je dois dire que il y a eu des réactions de la part des membres du gouvernement. Je préfère qu'il y ait des réactions qu'une indifférence. Ça veut dire que ce sont des problèmes sensibles et que tout le monde comprend l'importance de ces problèmes-là. Mais le rapport lui-même, il y a dans ce rapport un certain nombre de progrès qui ont été enregistrés. Je ne voudrais pas donner la liste, mais nous allons à la page 9, le paragraphe 22, à la page 15, le paragraphe 48, à la page 18, le paragraphe 62, à la page 20, le paragraphe 71, dans lequel on dit « malgré les efforts » ou « des efforts ont été consentis ». Donc nous reconnaissons ces efforts. Nous les reconnaissons.
Sans vous arrêter la parole, est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur ces efforts?
Oui.
Dans de quelle nature?
Mais ce sont des efforts. D'abord, je pense qu'on peut déjà donner un exemple concret de ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous avons eu des procès emblématiques qui se sont déroulés et dans lesquels nous avons eu des jugements qui sont intervenus. Et ce sont des jugements dans un certain nombre d'affaires qui impliquaient des officiers de supérieurs de l'FARDC. Je crois qu'il est très important pour la population de voir que l'impunité, la lutte contre l'impunité progresse et ces jugements qui ont pu être obtenus grâce au soutien de la communauté internationale et notamment de la MONUSCO, également du PNUD, également de AFF Belgique, de l'American Bar Association et d'autres intervenants. Donc, grâce à la sécurisation qui a pu avoir lieu et la protection des civils, donc ces procès ont pu avoir lieu et ont valeur de symbole. Alors, c'est important parce qu'on voit que des gens, alors ce n'est pas encore le résultat que nous attendons, puisque nous espérons que d'autres personnes sont impliquées soient également amenées à la justice, mais ce sont des efforts méritoires, et la population a pu voir dans ces procès récents que les choses sont en train de bouger. Nous souhaitons, bien entendu, que cet effort se poursuit. Il y a eu également, par exemple, et c'est noté dans le rapport, le recrutement de magistrats. Et tout ce qui est dit dans le rapport, c'est qu'on salue le recrutement de ces magistrats supplémentaires, mais nous disons en même temps qu'ils n'ont pas les moyens, qu'il y a eu les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens également au niveau de la formation. Donc nous reconnaissons les efforts. Je voudrais également dire un mot qu'il faut voir la situation du Congo par rapport à ce qu'elle existait, la situation il y a quelques années. Il y a des progrès, je pense que les Congolais le voient, il y a une certaine forme de stabilité, bien entendu, la situation est particulièrement préoccupante.
Mais en même temps, vous dites qu'il y a des avancées saluées, mais en même temps, le rapport est formel, la situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée. Il n'y a-t-il pas de contradiction quelque part ?
Non, il n'y a pas de contradiction parce que c'est la préoccupation de tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a d'un côté la communauté internationale qui se préoccupe des viols qui sont liés dans l'Est du Congo, et de l'autre côté, des gens qui sont indifférents. Tout le monde est préoccupé par cette situation. Donc, il est tout à fait normal que nous disions qu'il y a des choses qui doivent être faites. Nous faisons des recommandations ont été faites, mais surtout, nous travaillons avec le gouvernement. Nous appuyons le ministère de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits Humains, et nous avons un certain nombre de programmes sur lesquels je pourrais vous donner un certain nombre d'informations pour montrer l'ampleur de l'effort. Mais ce que nous disons, c'est que ces efforts doivent être poursuivis, et qu'il y a encore des efforts, notamment pour amener à la justice certains auteurs de faits. Lorsque le ministre, son excellence, monsieur le ministre de la Communication, parle du fait que nous parlons beaucoup des FARDC.
Et qui a été très virulent dans sa réponse.
Oui, qui a été virulent, mais je pense que c'est normal, c'est un sujet qui est sensible. Je vous ai dit que je préfère une réponse de ce type-là que l'indifférence. Donc ça veut dire qu'il y a une préoccupation de part et d'autre, et surtout il y a une préoccupation pour le gouvernement congolais d'avoir une image. Donc c'est une préoccupation que je salue. Mais pour les FARDC, je voudrais juste dire un mot, si vous me permettez.
Oui, oui.
C'est important que les FARDC, Monsieur Lambert, Monsieur son Excellence, le ministre de la Communication, tout à fait raison de dire qu'il y a d'un côté les actions qui sont faites par les FDLR et de l'autre côté les FARDC, mais les FARDC, effectivement, ce sont des institutions. Et donc, c'est tout à fait normal pour la confiance de la population.
Voilà. Professeur Nyabirungu, comment vous avez accueilli ce énième rapport sur les droits de l'homme en RDC, pour le dire?
De manière générale, quand je reçois ou lis le rapport de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, le rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme, c'est avec, je dirais, beaucoup de confiance, en ce sens que je suis conscient que le système des Nations Unies nous a apporté beaucoup de choses dans le cadre de la pacification et dans le cadre de l'affirmation des droits de la personne et dans le cadre de la protection des populations civiles. De manière générale, je considère que le rapport des Nations Unies émane des amis qui ont une préoccupation pour la population congolaise et qui ont une volonté d'aider le gouvernement de la République, de surmonter toutes les difficultés liées au conflit dont nous sommes en train de sortir tant bien que mal, afin que les standards internationaux en matière de droits de l'homme soient aussi respectés chez nous, soient respectés par nos institutions et soient respectés par nos autorités. Et je pense que c'est un instrument, un secours, une aide à tout ce qui nous gouverne afin que les choses s'améliorent chaque jour davantage. Donc mon accueil est plutôt un accueil favorable, même s'il y a des éléments sur lesquels on peut revenir ou même s'il y a des choses à propos desquelles il y aurait à réduire.
Alors, ce rapport est une aide à ceux qui gouvernent, professeur, mais à suivre le ministre Mende, on a l'impression que finalement, entre l'ONU et le gouvernement congolais, les rapports sont en dents de scie, c'est comme s'il y aurait un problème de communication entre les deux partenaires.
Peut-être qu'il y en a, mais n'oublions pas qu'ils ont des mandats différents, donc un regard différent sur les hommes et sur les événements. Et contrairement à ce que vous avez dit, j'ai entendu l'extrait du discours de Lambert Mende, il n'y a pas lieu de parler de virulence dans son propos. Il a reconnu que le diagnostic était correct.
tout en le nuançant.
Oui, mais il a dit aussi que l'essentiel n'était pas de demeurer dans le diagnostic, mais qu'il fallait s'impliquer de manière plus profonde, plus large, dans le renforcement des capacités de tous les acteurs, de tous les animateurs, des mécanismes nationaux et internationaux du droit de l'homme. Je pense que c'est un regard plutôt objectif, même si en tant que membre du gouvernement, il peut avoir une tonalité que peut-être la haut commissaire aux droits de l'homme n'a pas pu avoir. Mais je crois qu'on est en train de dire la même chose.
Professeur, encore une aide à ceux qui gouvernent, je considère cela comme l'une des forces de ce rapport. Mais quelles sont les faiblesses, puisque vous avez dit qu'il y a des choses à redire, certaines choses?
Bien sûr, on ne peut pas lire la proclamation, la protection, la promotion des droits de l'homme dans un pays en paix comme dans un pays en guerre ou qui sort de la guerre. On ne peut pas faire la lecture des droits de l'homme dans une démocratie multiséculaire comme on le ferait dans un pays qui à peine fait ses 50 ans, et sur les 50 ans, un pays qui a peut-être connu une dizaine d'années de démocratie. Donc les lectures doivent nécessairement être différentes. Et le conflit dont nous parlons, c'est certain qu'il a un impact sur les faiblesses structurelles de nos institutions qui ont été aussi épinglées par le rapport. Mais nous savons aussi en même temps comment l'État congolais, le gouvernement congolais, le Parlement congolais travaillent sur cette réforme structurelle au niveau de la police, au niveau des forces armées. Nous savons aussi comment, et le rapport le dit, il y a eu des jugements pour mettre fin à l'impunité en matière de violence sexuelle. Il y a des officiers qui ont été jugés, il y en a d'autres qui sont en détention, et il y en a d'autres qui, certainement, tant que les crimes continuent à se commettre, seront toujours jugés par une autre justice militaire. Il y a bien sûr un effort à faire sur la mentalité des citoyens congolais, parce qu'il ne faut pas non plus nous tromper. Le droit de l'homme, bien sûr, c'est d'abord l'État, mais c'est aussi chacun de nous. Et il y a des agents de l'État, lorsqu'ils ont une parcelle de pouvoir, croient que c'est tout à fait naturel d'en abuser dans un sens ou dans un autre. Il y a une mentalité à améliorer, à cultiver. Tout cela peut être dit et expliqué, bien sûr.
Merci, Juvenal Monobo Mobi. Vous êtes point focal du réseau de la société civile pour la réforme du secteur de sécurité. Vous êtes basé au Nord Kivu. Ce rapport souligne que la partie Est, surtout, a été la plus meurtrie en ce qui concerne les droits de l'homme. Comment vous avez accueilli ce rapport?
Je suis d'accord largement avec ce rapport. Ce rapport qui a été présenté à la 16e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et c'est tout à fait normal que le Nord Kivu, le Nord, le Sud Kivu, donc la partie Est, soit la plus visée par les rapports, parce que le rapport lui-même dit que ces violations sont liées au conflit. On cite notamment les opérations militaires en cours contre le FDLR, menées par le FRDC. Et au cours de ces opérations, le FDLR commet lors de leurs représailles. Ils commettent donc des représailles sur des civils une fois pourchassés. Donc c'est tout à fait normal puisque c'est lié au conflit, c'est lié aux séquelles des conflits aussi, aux problèmes qui n'ont pas été résolus, qui ont découlé des conflits. C'est comme l'intégration de l'armée. C'est un problème qui reste parce qu'il y a des groupes armés dont leurs éléments ne sont pas encore intégrés. Les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion qui n'a pas connu en tout cas un franc succès ici à l'Est. La problématique épineuse des armes légères, prolifération des armes légères, la commission provinciale des contrôles des armes légères au Nord Kivu, par exemple, on l'attend toujours. C'est lié donc au conflit et ce n'est que normal. C'est lié aussi à l'ineffectivité du pouvoir de l'État. Si vous parcourez certains territoires comme le Walikale, vous pouvez aisément faire 60 km sans rencontrer un poste de police. Donc là aussi, il y a lieu de parler, comme on parlait lors de la transition, post-dialogue intercongolais et intercongolais, rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je crois que cet objectif n'est pas encore totalement atteint lorsqu'on voit certains recoins du Nord Kivu, par exemple. Mais je crois qu'il y a lieu quand même de souligner les efforts qui ont été déployés. Je vois ici, pour le cas du Sud Kivu, les procès contre un colonel des FARDC, Daniel Sididi, j'ai lu ça dans Jeune Afrique. Il a été condamné à 20 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'au cours d'un raid, il y avait rixe entre les populations et les militaires. Eh bien, il aurait ordonné à ce qu'il y ait une expédition punitive. Et voilà, le tribunal militaire de Baraka s'est saisi de l'affaire. Et voilà, il a été condamné à 20 ans de ce système-là. C'est un effort. Pour le Nord Kivu, je note les audiences foraines qui ont été organisées dans les territoires de Rutshuru. C'est vrai que lorsqu'on voit les volumes de dossiers, ce n'est pas assez par rapport à tout ce qui se commet ici. Il y a plusieurs cas qui restent encore dans les chiffres noirs. Et puis, comme je le disais, la juridiction reste toujours éloignée de là où se commettent les violations. Et je crois qu'il y a quand même lieu de saluer ces efforts. Je considère ce rapport en tant qu'acteur de la société civile. Nous considérons ce rapport comme une exhortation à mieux faire lancé au gouvernement. Ce n'est donc pas un combat direct contre le gouvernement, comme l'a dit un auditeur précédemment. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut des moyens financiers pour permettre, faciliter l'action de la justice, l'action des forces de l'ordre. Les réformes structurelles dont parle le professeur Nyabirungu, je suis d'accord, et je pense même que c'est ça la solution cruciale. Il faut opérer la réforme de l'armée, la réforme de la police, la réforme dans le secteur de sécurité. Mais lorsqu'il existe des projets, des plans d'action qui n'évoluent pas dans une vitesse qu'on souhaitait pour la police, ce n'est qu'au cours de cette session qu'on a essayé un peu de l'évaluer au niveau du Sénat. Nous voulons que ça aille vite, que les lois organiques soient traitées et que les plans d'action soient mis en œuvre. Je suis d'accord avec les rapports. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ces rapports, c'est lorsque les rapports parlent, dit que la situation ne s'est pas améliorée et que la situation des droits de l'homme reste extrêmement préoccupante. C'est un peu cet adverbe ici, cet adverbe extrêmement préoccupant, et je crois qu'il faut relativiser un peu, et comme c'est une exhortation à mieux faire, je crois que c'est là où je ne suis pas d'accord, mais pour les restes, je suis largement d'accord.
Merci.
Et si le Nord Kivu, il y a trop d'exactions, ça se justifie. Nous sommes pas dans un contexte de conflit. Le conflit n'est pas encore fini.
Maître Journal.
L'armée en intégrée. Merci.
Voilà, nous regardons tout au long de cette émission. Ce rapport parle également des conditions carcérales. Nous allons prendre une illustration en allant à la prison centrale de Bounia, où plus de 440 détenus malades sont enregistrés au cours de ce mois de mars. Ce chiffre représente la moitié des détenus. Selon l'infirmier responsable de cette prison, certains de ces détenus souffrent des maladies contagieuses, notamment la tuberculose. À cela s'ajoute la rupture des stocks des médicaments depuis un mois pour la prise en charge médicale des détenus. Face à cette situation très préoccupante, l'infirmier titulaire de cette prison sollicite une intervention d'urgence. Isaac Remoyope.
Parmi les détenus malades, il y a une femme vivant avec le VIH-Sida et trois tuberculés. Ces derniers ne sont pas isolés et exposent à cette maladie les autres détenus de la prison centrale de Bounia. Il y a aussi des cas d'anémie, des diarrhées ou des malnutrition sévères. Selon l'infirmier responsable de cette prison, le nombre élevé de malades est dû notamment au problème de promiscuité et au manque d'hygiène. Il affirme que certains détenus militaires contraignent d'autres prisonniers à enlever les matières fécales à l'aide des mains, ce qui expose ces détenus à diverses maladies. Selon la même source, 443 détenus malades ont été enregistrés en ce mois de mars sur environ 900 prisonniers qui comptent la prison centrale de Bounia. Pire encore, le dispensaire de la prison est en rupture des stocks de médicaments pour la prise en charge médicale des prisonniers malades, ce qui risque d'aggraver la situation sanitaire déjà très préoccupante dans la prison, précise cet infirmier. Le médecin chef des zones de santé de Bounia, qui assure les soins des détenus, n'a pas été joignable. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio.
Merci Isaac Remoyope. Jean-Luc Marx, la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée en RDC, reste extrêmement préoccupante. À quel niveau se trouve finalement le problème? Parce que le rapport dit que le gouvernement n'a pas pu mettre en œuvre toutes les recommandations.
Il n'y a pas une raison, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le problème de la situation sécuritaire. Il est, comme l'a dit avec pour justesse mon contradicteur l'honorable professeur, c'est que c'est de faire progresser la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, alors qu'il y a une partie du territoire qui est toujours sous la menace, c'est une chose qui est difficile. La deuxième chose, c'est la volonté politique. Et enfin, le troisième, c'est le problème des moyens. Donc tout cela, alors vous venez d'évoquer par exemple le problème des prisons, qui est un problème qui est très important. Nous avons une unité prison qui travaille à la MONUSCO pour aider justement à l'amélioration, mais là également c'est lié au problème de la réforme judiciaire, puisqu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont en détention préventive, illégale, mais il y a aussi le problème de gens qui s'évadent. Et ça, c'est un problème pour la lutte contre l'impunité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs degrés, et on ne veut pas dire qu'il y a une cause unique, mais il y a, nous souhaitons vraiment que sur tous ces points, donc, la situation puisse s'améliorer.
Alors, quand vous parlez de volonté politique, elle fait défaut, donc?
Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que, d'abord, la situation est complexe. Cela a été évoqué à l'instant par monsieur le professeur. Nous sommes dans une situation qui est véritablement complexe. Je ne vais pas donner des détails à ce niveau-là, mais il est vrai que sur certaines choses, nous pourrions avoir des progrès plus rapides. Je regrette notamment, et comme cela a été dit dans le rapport de la haut-commissaire, le problème de l'accès à certains centres de détention. Là, c'est pas une question de moyens, c'est tout simplement de dire, vous avez accès, les ONG ont accès, donc c'est une chose qui ne dénote pas simplement un problème de moyens. Donc, pour le reste, la situation est extrêmement complexe, il y a des problèmes de moyens qui sont évidents. Cela a été évoqué par notre contradicteur dans l'Est, qui a bien rappelé qu'il y a un problème de couverture du territoire par les services publics. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'accent, c'est vraiment, ici, la question des droits de l'homme, c'est pas seulement une question des droits de l'homme, c'est une question de gouvernance, et c'est un problème d'état de droit, et surtout des capacités de l'État à remplir ses obligations.
Prenons cette question qui nous vient de Bukavu, sculptez-vous pour vous, Jean-Luc Marx.
Arnold Ondeni, à partir de l'Union européenne. Pourquoi, sur le rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme, en RDC, ne tiennent pas compte du vécu quotidien de la population? C'est-à-dire, les fonctionnaires sont très mal payés, il n'y a pas d'eau, d'électricité, les élèves et étudiants font face à des primes des enseignants et beaucoup de difficultés qui ne figurent pas dans les rapports des Nations Unies. Tous les rapports sont allusions à l'insécurité, aux viols, et ce n'est pas vraiment pourquoi ils ne tiennent pas compte du vécu de la population.
Alors, pour compléter cet auditeur, il y a des grèves des enseignants par-ci par-là. Pourquoi le rapport ne fait-il pas allusion à la situation sociale d'après cet auditeur?
Écoutez, le rapport fait état quand même des problèmes matériels, parce que ce sont des problèmes matériels. Le bureau conjoint n'est pas en charge de ces problèmes de paiement des salaires, mais évidemment le problème des paiements des salaires est une question qui est importante. Donc tout ça, c'est un effort du gouvernement, également de la communauté internationale, qui est là pour aider, pour assister le gouvernement du Congo. Mais je comprends cette préoccupation, mais lorsque nous parlons par exemple de la justice, la justice est essentielle. Il est évident qu'il faut que les règles de procédure soient respectées, donc ça on n'a pas besoin d'avoir des moyens, mais par les juges, mais il faut également des véhicules, il faut également des tribunaux, il faut également des ordinateurs. Donc, toutes ces questions, c'est lié à l'état de pauvreté. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je remercie les bailleurs, parce que les bailleurs sont très importants pour la lutte contre les violations des droits de l'homme par les moyens qu'ils fournissent. Donc, ça, c'est un point qui est important. Donc, votre auditeur a raison, mais c'est pas dans le rapport de la haut-commissaire que nous allons régler ce problème. C'est un problème global des capacités de l'État congolais.
Professeur Nyabirungu, il y a l'honorable Odiane Paulin de Kisangani en province orientale qui dit: le rapport de la haut-commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme en RDC, spécialement ce qui concerne les arrestations arbitraires et détentions, se justifie humblement dans les milieux ruraux du pays et même dans les villes. Les policiers et certains magistrats se comportent en roi dans nos terroirs. La solution serait l'implication des autorités politiques et donner les moyens conséquents au cours ces tribunaux. Enfin, il faut qu'il y ait véritablement indépendance des cours des tribunaux. Professeur, votre réaction?
Je crois que l'honorable a tout à fait raison. Et je le disais à l'aspect de ma première intervention, quand je parle de la mentalité des agents publics, des citoyens congolais qui, lorsqu'ils ont une parcelle de pouvoir, ont tendance à l'abuser. Nous savons qu'au niveau de la police ou de l'armée, c'est vrai, on rencontre des pratiques qui consistent à rançonner des paisibles citoyens Et nous pensons que si ces agents publics, qu'ils soient policiers ou militaires, étaient mieux encadrés matériellement et financièrement, étaient mieux encadrés dans leurs conditions de travail, peut-être que ce genre d'exactions baisserait en nombre et en intensité. Nous pensons aussi que la magistrature, pour avoir et mériter son indépendance, a droit à ce que les animateurs de la magistrature soient dans de bonnes conditions de travail. Et nous avons toujours dénoncé, par exemple, le phénomène de la corruption. Et la tendance est de penser que c'est d'abord chez les magistrats qu'ils se rencontrent, parce que tous les citoyens, effectivement, ont souvent affaire à la justice et malheureusement, ils ne rencontrent que frustration. Donc, il faut que l'État, dans son effort d'améliorer les conditions d'une bonne administration de la justice, s'occupe sérieusement des conditions salariales, des conditions de travail des magistrats. Alors, dans ces conditions, l'État sera en mesure de sanctionner ceux qui s'écartent de la bonne conduite et de récompenser les meilleurs de ces magistrats.
Professeur, j'ai le rapport sous les yeux en ce qui concerne le point A, arrestation et détention arbitraire et illégale. Je note le point 13 en ce qui concerne les obstacles à l'application des recommandations. Je vais vous lire un extrait. Il s'agit notamment d'une méconnaissance de la part des autorités judiciaires et de la hiérarchie des forces de sécurité, de la gravité des arrestations et des détentions arbitraires illégales qui est à mettre principalement sur le compte de la corruption et des faiblesses structurelles de l'État. Des agents qui méconnaissent quand même les structures et les procédures, c'est grave, professeur.
C'est très grave et c'est pour cela que nous devons saluer tous les programmes de renforcement des capacités. Parce que par ce programme, les agents publics peuvent effectivement changer un peu de mentalité, comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas banal, en comprendre la gravité et se comporter en conséquence. Il faut remercier tous ces partenaires que sont Avocats sans frontières, Association du barreau américain, Régisco, PNUD, parce que par leur action, des centaines de magistrats sont au courant de ce qui ne va pas. Elles sont de plus en plus au courant de ce qu'ils doivent faire. Et un travail comme celui-là, c'est un combat sans repos et sans répit. Et si tout le monde, le gouvernement, les magistrats, les policiers, les soldats, comprennent l'importance et l'urgence de résoudre ces questions, c'est sûr que l'état de droit se portera mieux et que les prochains rapports pourraient être plus significatifs dans l'appréciation des efforts de l'État congolais.
Maître Juvenal Monobo Mobi, avec vous, nous allons directement attaquer la deuxième partie de cette émission. Quelles sont vos propositions concrètes pour améliorer les droits humains en RDC? Vous parlez déjà de la réforme du secteur de sécurité, de la police, de l'armée et le rétablissement de l'État sur toute l'étendue de la nation.
En plus de ces deux solutions, je voudrais revenir sur ce que disait le professeur. Nous ne pouvons pas être très contents sur...
Maître Juvenal.
Vraiment, où il est de l'Assemblée nationale, lorsque la communauté internationale appuie à 100%, par exemple, les audiences foraines dans les Routchouro. Il y a des audiences foraines qui sont organisées dans les Routchouro, et les PNID, et l'Association du barreau américain, appuie en tout cas, si pas à 90%, à 100%, presque entièrement, les coûts, les transports des magistrats, les logements, etc. Je crois qu'une prise de conscience au sein du gouvernement est plus que nécessaire. Il faudrait un grand budget alloué au secteur de la justice, au secteur de la justice dans le domaine de lutte contre l'impunité. Pourquoi? Parce que la lutte contre l'impunité ne se décrète pas. Il faut mettre des moyens pour y arriver. Il ne suffit pas de dire tolérance zéro. Il faut des moyens pour y arriver à les concrétiser. Et donc, si la communauté internationale nous aide déjà beaucoup, eh bien, nous ne pouvons pas croiser les bras. Et il faudrait voluminer ici au niveau du budget, ou en tout cas prévoir un budget des allocations suffisantes par rapport à la justice, amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, il faudrait aussi penser au social de la population, le paiement des fonctionnaires de l'État, etc. Et donc, il faudrait un peu diminuer, parce que le gros des budgets, c'est souvent au niveau du fonctionnement des institutions. Au niveau du fonctionnement des institutions, il faudrait qu'on arrive à diminuer un tout petit peu. Donc, la communauté internationale nous aide aujourd'hui, mais ce n'est pas à visite à l'internat. Nous devons prendre nos responsabilités. Et donc, par rapport aux moyens, il faut une politique de mobilisation de moyens et une bonne répartition des moyens dans les secteurs clés de la nation. Et la justice est un secteur clé. Le secteur de sécurité, c'est un secteur pour le secteur pauvre aussi, l'amélioration des conditions de vie de la population. Les réformes structurelles, on en parle depuis l'accord global à l'inclusif. Mais ces réformes n'aboutissent toujours pas. C'est depuis les accords de Lusaka qu'on parle de la réforme du secteur de sécurité. Et, mais lorsqu'on voit la vitesse avec laquelle cette réforme évolue, on se dit, on doute un peu, est-ce qu'il y a vraiment la volonté politique dans les chefs du gouvernement. Mais comme ce rapport est une exhortation à mieux faire, et comme il ne faudrait pas plonger dans l'alarmisme, et comme je suis de la société civile et il faut un dialogue, c'est aussi ça la nouvelle approche de la société civile, qu'il ne faut pas seulement critiquer, mais il faudrait arriver à dialoguer avec le gouvernement pour le changement. Je crois qu'il faut accélérer les choses dans la réforme du secteur de sécurité. Je crois que par rapport, par exemple, à la lutte contre les violences sexuelles, il existe déjà des stratégies nationales de lutte contre les violences sexuelles, mais qui ne sont pas suffisamment vulgarisées.
Merci.
Je crois qu'il faut le faire. Le rapprochement de la justice des justiciables, des tribunaux de paix, créé depuis 1982, mais qui existe seulement dans, je pense, dans la partie nord de la province seulement, et bien il faut les installer dans le territoire comme prévu dans la loi.
Merci.
Ouais, il faut être proactif, il faut passer à l'action.
Merci Jean-Luc Marx. Je rappelle que vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Il y a deux auditeurs, Kitenge Nico de Kamanga au Kassai Occidental, qui dit « Tant que les violeurs des droits humains ne seront pas punis d'une manière exemplaire, toutes les stratégies que l'on peut arrêter ne serviront à rien pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. » Jean Bosco de Lubumbashi au Katanga, « Comme solution, je propose que tout le monde s'implique et que chacun joue son rôle, c'est-à-dire que le gouvernement congolais dénonce toutes les violations des droits de l'homme et que les auteurs soient réellement poursuivis par la justice nationale ou mieux internationale. Aussi qu'on ne voit plus ces auteurs se promener librement dans les rues de Goma, Bukavu et Kinshasa. Et enfin, que le recrutement de nos soldats et policiers soit basé sur les critères intellectuels. » Mais on a suivi dans l'interview du ministre Mende, dans ce rapport, la haut commissaire recommande au gouvernement congolais de mettre sur pied une structure de suivi. Mais ça ne me semble pas être le même avis que le gouvernement.
Non, je ne crois pas. D'abord, je voudrais dire que il est évident que la lutte contre l'impunité est la priorité. C'est une priorité pas simplement pour lutter contre l'évaluation des droits de l'homme, c'est la crédibilité des institutions qui est en cause. Il est évident que si une personne est condamnée pour viol et que quelques jours après la condamnation, cette personne se promène dans la rue et va sourire à sa victime, ça affecte pas simplement la victime, mais ça affecte la crédibilité de tout le système judiciaire, de tout le système policier. Donc la lutte contre l'impunité doit vraiment être la priorité. La deuxième chose, c'est la responsabilisation des institutions. C'est un point qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc, un autre point qui a été évoqué par notre contradicteur à Goma, c'est également le problème du partenariat. Donc je pense que c'est une chose qui est tout à fait importante. Je le dis d'autant plus que Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme veut ce partenariat, nous le souhaitons à tous les niveaux. Et comme cela a été dit, le partenariat, c'est pas simplement pour dénoncer, mais c'est pour travailler avec les institutions, pour trouver des solutions. Donc je crois que cette lutte contre l'impunité doit se faire avec la société civile.
Mais brièvement, est-ce que la question du rapporteur spécial pour les droits de l'homme est toujours d'actualité?
Oui, alors, donc ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas répondu à l'autre partie de votre question concernant la suite de ce qu'on appelle le fameux mapping exercise. Donc il y a un projet de loi. Donc c'est un projet de loi qui va être discuté peut-être, je n'en sais rien, peut-être à cette question. Nous sommes prêts à apporter un soutien. C'est un soutien, il y aura des discussions. Une équipe est en ce moment présente de Genève. Donc, mais laisser ces discussions d'abord se faire avec les ministres et avec les parlementaires.
Professeur Nabirongo, prenons cette proposition qui nous vient de Colésie pour vous.
Maître Maïdi, depuis Colézi au Katanga, nous recommandons au gouvernement de mettre en place une structure pouvant permettre à la justice congolaise, qui n'a presque pas une image, de bien faire le travail convenablement comme de droit, surtout à l'est du pays où les droits de nos frères et sœurs sont manifestement violés.
Professeur, quelle pourrait être cette structure? Faut-il par exemple créer un mandat de procédure spéciale?
Ce n'est pas toujours évident qu'une procédure spéciale aurait plus d'efficacité qu'une procédure ordinaire. Toutefois, face à la montée de la criminalité, plus particulièrement en matière de violences sexuelles à l'Est, telles qu'on a connu le cas à Walikale où presque 400 personnes furent victimes de viols au mois d'août dernier, on a constaté un effort du gouvernement congolais et de la communauté internationale pour renforcer les capacités des OPJ civils et militaires afin de les disponibiliser pour des enquêtes sur les crimes commis à Walikale et aussi de faire en sorte que, une fois cette expérience acquise, elle puisse profiter à toute la République chaque fois qu'on aura des cas semblables. C'est un effort qui a été fait, qui est en cours, avec notamment des juridictions militaires. On n'a pas fait beaucoup de publicité, mais c'est quelque chose d'appréciable, même si ça n'apparaît pas dans les rapports des Nations Unies. Il faut continuer cet effort, comme je vous l'ai dit, c'est un combat sans répit et sans repos.
Professeur, il reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. En guise de conclusion, la question du rapporteur spécial pour les droits de l'homme en RDC est-elle toujours d'actualité?
Elle peut l'être selon que notre évolution en matière des droits de l'homme sera positif et favorable ou non. Néanmoins, nous devons toujours compter sur nos mécanismes nationaux internes pour faire face à toute forme de criminalité.
Maître Juvenal, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la communauté, la RDC pourrait attendre de la communauté internationale pour améliorer les droits de l'homme?
Il y a tout d'abord l'axe du renforcement des capacités des OPJ, par exemple, donc des agents du système de la sécurité de la défense. Il faut un renforcement de capacités. Je suis tout à fait d'accord avec la communauté internationale qui s'appelle à renforcer ses capacités. Je crois qu'il faut renforcer davantage aussi les capacités des acteurs de la société civile dans les monitoring, les reporting des violations des droits de l'homme, dans la documentation des cas. Je crois qu'il faut consolider le partenariat société civile, communauté internationale, gouvernement congolais, s'agissant de la question des droits de l'homme. Je pense ici, par exemple, à l'entité des liaisons aux droits de l'homme qui a été évoquée, mais qui est depuis un certain temps, on ne voit pas vraiment se mettre à l'œuvre. Il faudrait aussi des structures comme l'Observatoire national des droits humains, qui existait durant la transition, mais qui a été fortement omis dans la constitution de la Troisième République. Voilà quelques pistes de solutions par rapport à l'apport de la communauté internationale. Mais le gros affaire reste pour les Congolais.
Merci. Jean-Luc Marc, en guise de conclusion.
Donc, je pense que nous avons un constat qui. Nous n'avons pas de divergence. Je crois que nous faisons le même constat, qu'il y a une situation, il y a des droits de l'homme qui sont violés. Et surtout, nous faisons le même constat qu'il y a lieu de renforcer les capacités de l'État et le partenariat avec la société civile. Je pense notamment à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui est une institution qui devra voir le jour. Donc, nous avons évoqué tout ça, donc je pense qu'il n'y a pas de divergence, ce n'est pas véritablement un débat, puisque nous allons dans le même sens.
Professeur, je voudrais donner juste la parole pour un mot à ce qui concerne les réformes structurelles au niveau du Parlement, qui semble traîner également.
Non, il y a un travail très important. Les lois au niveau de la défense nationale et des forces armées ont été votées et transmises au Sénat en seconde lecture. Il existe des lois sur la police qui sont en finalisation. Un travail réel est en train d'être fait et c'est tant mieux.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, d'avoir été des millions à nous suivre partout au monde grâce à RadioCapu.net, où vous pouvez retrouver cette émission si vous souhaitez la réécouter. Prenez rendez-vous à 4h15, heure de Kinshasa, pour tous les programmes sur la Radio de la Paix.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.